Et le journal vous est présenté ce soir par Anne Fauquemberg. Bonsoir à vous.
Bonsoir Olivia, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité,
l'Autriche dépouille actuellement ses bulletins de vote. Élection plus serrée que prévue entre les deux candidats à la présidentielle. Rien n'est joué entre l'extrême droite du FPO de Norbert Hofer et Alexander Van der Bellen, candidat indépendant. Notre envoyé spécial Ludovic Piétenu nous attend à Vienne avec les premières estimations. Manuel Valls au Proche-Orient avec pour mission de convaincre les Israéliens de s'engager dans l'initiative française pour la paix en juin prochain. Un Premier ministre en chute dans les sondages qui a aussi cherché à retrouver du souffle aujourd'hui. Le reportage de Julie-Marie Lecomte est à suivre. Le Pakistan dénonce ce soir une violation de sa souveraineté, conséquence de la frappe américaine qui aurait permis de tuer la nuit dernière le chef des talibans afghans. Le spécialiste de l'IRIS, Karim Pakzad, va nous expliquer qui pourrait succéder au Mollah Mansour. La tension monte à Cannes, à 2h du palmarès. Nous serons avec Antoine Guillot et ses pronostics en fin de journal. Au sommaire de dimanche et après, Olivia Gesbert, une justice en voie de clochardisation.
Oui, à l'occasion des débats à l'Assemblée nationale autour du projet de loi justice du 21e siècle, initié par Christiane Taubira, porté par Jean-Jacques Urvoas. Comment moderniser la justice française? Mes invités, la magistrate Céline Roux et le sociologue Benoît Bastard.
Merci Olivia, et avant de vous retrouver à 18h15, nous serons avec Valérie Segond pour la chronique économique. En Autriche, la bataille pour la présidence de la République est loin d'être jouée. On croyait la dynamique du côté de l'extrême droite et de son candidat Norbert Hofer, arrivé en tête du premier tour. Les deux candidats semblent finalement au coude à coude. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Anne.
Envoyé spécial à Vienne pour France Culture, avez-vous deux premières estimations ?
C'est à touche-touche, c'est vraiment du 50-50, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il est complètement inutile, tant l'incertitude est grande ce soir à 18h, heure de Paris, heure de Vienne. En tout cas, pendant 10h, les bureaux de vote étaient ouverts et les Autrichiens avaient un choix cornélien pour certains à faire. Ils devaient faire ce choix entre le vert et le bleu, un choix radicalement différent, un dilemme. J'ai croisé par exemple Myriam et Sarah dans le 10e arrondissement de Vienne, un arrondissement populaire, une mère et sa fille votait pour la première fois, imaginez-vous, et Myriam, elle, vote plutôt traditionnellement noir, autrement dit conservateur. À droite, pour elle, Alexander Van der Bellen, comme Norbert Hofer, sont deux extrémistes, l'un dit-elle en riant, et pour le vélo, l'autre pour la voiture, mais aucun des deux n'a une vision équilibrée. Finalement, les deux femmes ont choisi de voter pour l'écologiste. Bien sûr, il y a aussi les convaincus, ici à Vienne, on est plus facilement Van der Bellen, les électeurs me disait craindre par exemple pour l'isolement de l'Autriche au sein de l'Union Européenne. À la campagne, en province, eh bien c'est l'inverse, on est plutôt Norbert Hofer. Ce qui fait qu'à l'échelle du pays, ce résultat est très serré, s'annonce serré. Les premières projections rendues publiques font état d'une avance pour Norbert Hofer dans un premier temps. Ça c'était à 17h dès la fermeture des bureaux de vote. Et puis petit à petit, l'écologiste Alexander Van der Bellen prend l'avantage. Il reste évidemment le vote des grandes villes qui devrait aller dans ce sens-là, mais rien n'est moins sûr. Et puis, il y a 900 000 voix par correspondance qui restent à dépouiller et qui ne le seront pas avant demain.
Merci Ludovic Piétenu, envoyé spécial à Vienne pour France Culture. Nous vous retrouvons avec peut-être des estimations plus affinées dans dimanche et après à partir de 18h15. Le Pakistan dénonce ce soir la frappe américaine qui aurait tué le chef des talibans. Islamabad dénonce en particulier une violation de sa souveraineté. Le Mollah Mansour a été tué dans une attaque de drone américain cette nuit au Pakistan, frappé alors qu'il arrivait d'Iran dans une voiture de location. Les États-Unis estiment que cet homme, successeur du Mollah Omar, était un frein pour les négociations de paix. Karim Pakzad, spécialiste de l'Afghanistan, chercheur à l'IRIS, espère maintenant une personnalité capable de rassembler les talibans pour les ramener à la table des discussions.
Aujourd'hui, les talibans apparaissent divisés. Pour l'instant, l'office de Mollah Omar ou son frère partent favori parce qu'il était déjà candidat, mais en même temps, comme je viens de dire, il y a des divisions sur le terrain, et puis la menace de Daesh qui est apparue dans l'est de l'Afghanistan, où une partie des talibans, y compris le vice-président, ou si vous voulez, l'un des adjoints de Mollah Mansour, a été très proche de ce mouvement de Daesh, Tout ça crée une certaine inconnue qu'on ne peut pas répondre actuellement. Mais moi, je pense quand même que le fils ou le frère de Mollama est bien placé pour succéder à Mollah Mansour. Il faudrait vraiment un successeur pour Mollah Mansour qui puisse fédérer, sinon l'ensemble des talibans, au moins une grande partie des talibans divisés, pour que de vraies négociations entre le gouvernement de Kaboul et les talibans s'engagent.
Des propos recueillis par Lorraine Mouyoumba. En Turquie, sans surprise, le ministre des Transports a été élu à la tête du parti au pouvoir AKP en début d'après-midi. Binali Yildirim est un proche du chef de l'État Erdogan. Il s'est d'emblée prononcé pour une nouvelle constitution et le passage à un système présidentiel, comme le souhaite son mentor. Manuel Valls au Proche-Orient, délicat déplacement de 3 jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Un déplacement global selon ses services, mais largement dominé par l'initiative française d'organiser une conférence internationale pour relancer le processus de paix en juin prochain à Paris. En chute libre dans les sondages, le Premier ministre s'est également requinqué auprès des Français d'Israël. Le reportage de notre envoyée spéciale Julie-Marie Lecomte.
À l'université de Tel Aviv, la plus grande et la plus demandée du pays, Manuel Valls a reçu cet après-midi la médaille WISE, la plus haute distinction de l'établissement. Il a eu droit à une véritable déclaration d'amour.
We admire you.
Nous vous admirons, lui a donc dit publiquement Jacob Frenkel, le président du conseil des gouverneurs de l'université.
Vous êtes un vrai ami d'Israël.
Ici, c'est le président de l'association des amis français de l'université qui parle.
Parmi tous les premiers ministres de la France, vous êtes un des très rares à avoir exprimé avec force et constance votre soutien au peuple juif, au mouvement sioniste et à Israël. Vous êtes le premier ministre de la France et le premier responsable politique français de haut rang à avoir déclaré à plusieurs reprises et même à l'Assemblée nationale que l'antisionisme est synonyme de l'antisémitisme.
En mars dernier, cette déclaration avait fait polémique. La médaille risque-t-elle de peser lourd une fois rentrée en France ? Pascal Poplin, député de Seine-Saint-Denis et président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée, dit que non.
Il faut appeler un chat un chat. Lorsqu'il y a contestation au nom de l'antisionisme, de l'existence même d'un État israélien, ça pose une difficulté.
Manuel Valls lance une nouvelle salve contre le boycott des produits israéliens.
Derrière ce boycott, nous savons bien ce qu'il y a. Pas seulement la contestation, mais aussi la détestation de l'État d'Israël. La détestation du foyer juif et donc des juifs dans leur ensemble.
Boycotter, c'est couper les ponts alors que les nations ont tant à échanger, a ajouté le Premier ministre. En sortant de l'université Tel Aviv, il avait rendez-vous avec Shimon Peres, l'ancien président de l'État Israël et prix Nobel de la paix.
Depuis Tel Aviv, Manuel Valls s'est également dit déterminé à ce qu'il n'y ait aucune pénurie d'essence en France. 3 raffineries sur 8 sont à l'arrêt ce dimanche, 2 tournent au ralenti. La CGT et FO appellent à amplifier le mouvement. La semaine s'annonce encore très sociale avec une nouvelle journée d'action jeudi pour le retrait de la loi travail. La CGT a appelé les dockers à suivre les appels à la grève. Le port de Nantes-Saint-Nazaire a déjà été bloqué tout ce week-end, tandis que chez les routiers, la mobilisation semble faiblir après le geste du gouvernement hier sur les heures supplémentaires. 18h10 sur France Culture, la chronique économique. Avec vous, Valérie Segond, bonsoir.
Bonsoir.
Cette semaine, l'URSSAF de l'Île-de-France a attaqué Uber devant la justice française. Cette opération spectaculaire pourrait, selon vous, avoir des répercussions sur d'autres secteurs d'activité.
Oui, on apprenait que l'URSSAF a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de requalifier les chauffeurs d'Uber, aujourd'hui considérés comme travailleurs indépendants, en salariés de la plateforme. Cette procédure a pour objet de récupérer des cotisations sociales sur pas moins de 15 000 chauffeurs Uber en France. Et pour obtenir la requalification, l'URSSAF a transmis au procureur de la République de Paris un procès-verbal de travail dissimulé, voulant démontrer qu'en vertu du Code du travail, il existe bien un lien de subordination entre Uber et ses chauffeurs.
Donc l'URSSAF demande au juge de dire si ces chauffeurs sont ou non des salariés. Quelle peut être la portée de cette affaire, sachant qu'Uber est une plateforme qui a un mode opératoire particulier?
Vous avez raison, les chauffeurs d'Uber doivent respecter des chartes, leurs tarifs leur sont imposés par l'algorithme et ils sont incités à travailler à certaines heures. Avec Uber, ils sont donc particulièrement encadrés. En même temps, Uber est la plateforme la plus emblématique de cette nouvelle économie qui repose sur le travail des indépendants. Ce qui signifie que si de 2 à 3 ans, les juges donnent raison à l'URSSAF, tous les secteurs qui font travailler des indépendants sur une base régulière risquent eux aussi de voir leurs prestataires requalifiés en salariés et de devoir payer des millions de cotisations sociales à l'URSSAF. Donc derrière l'affaire Uber, l'URSSAF pose le problème du travailleur indépendant dans un monde où la notion d'entreprise se transforme, où elle devient de plus en plus coordinatrice de leur travail. L'URSSAF nous pose deux questions cruciales. Quid de notre code du travail et quid de notre protection sociale pour ces indépendants que l'on appelle, selon, travailleurs collaboratifs, travailleurs numériques, travailleurs à la demande ou encore travailleurs 2.0. Ce que demande l'URSSAF, c'est ceci, c'est de faire entrer l'économie des plateformes dans notre modèle social pour ne pas laisser se développer le travail hors de la protection sociale. Aussi, dit l'URSSAF, faites cotiser plein pot les plateformes et les indépendants pour qu'ils bénéficient d'une vraie couverture.
De toute façon, si ce travail est appelé à se développer, il va bien falloir faire quelque chose.
Et il faut s'y préparer dès maintenant, comme le défend France Stratégie, qui a recueilli ces derniers mois des contributions de tous les économistes et juristes du travail. Mais la question, c'est comment fait-on ?
Effectivement, est-ce que c'est jouable de faire rentrer ces plateformes dans notre modèle social ?
Sans doute non. C'est pour ça que France Stratégie propose plutôt de bâtir un nouveau cadre adapté au parcours intermittent, en créant des droits sociaux spécifiques pour sécuriser les actifs. Et selon, on va voir trois options assez différentes. Soit on conserve la distinction entre salariat et travail indépendant en rattachant certaines situations hybrides au salariat, comme on l'a fait par exemple pour les pigistes, en créant pour eux une protection contre la perte de revenus. Et on organise mieux la portabilité des droits tout au long de la vie professionnelle par le compte personnel d'activité. En clair, on adapte les statuts existants. Soit, deuxième option, on crée un statut hybride entre salariés et indépendants en définissant les travailleurs, je cite, économiquement dépendants, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent qu'avec un seul client ou ceux qui se retrouvent très encadrés par leurs clients. À ce statut qui existe en Espagne et en Italie serait associé un certain nombre de droits, à la fois en termes de droit du travail, comme le droit à la négociation collective et de protection sociale. Soit, troisième option, on remet tout à plat en créant un statut de l'actif, un droit de l'activité professionnelle englobant tous les statuts. Et on donne des protections croissantes en termes de droit du travail comme de protection sociale selon le degré de dépendance du travailleur. Toutes les caisses, y compris celles du public, seraient fondues en une seule. Ce serait une sorte de grand soir social, on voit que ce serait difficile en France. Mais ça veut dire que cette question des travailleurs indépendants pourrait bousculer les droits de tous les actifs qui cotisent, y compris les salariés du public. Il est très important que les Français, tous les Français en prennent conscience, car ça va être une des grandes réformes de l'après-2017.
Merci Valérie Segond, votre chronique économique est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Le monde du cinéma est en ébullition. D'ici 2 heures, on connaîtra le palmarès du 69e Festival de cinéma à Cannes. 21 films dans la compétition officielle. Le jury, présidé par l'Australien George Miller, a délibéré dans un lieu tenu secret toute la journée. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Anne.
Spécialiste cinéma à France Culture. Alors qu'est-ce qui se dessine selon vous ?
Impossible, Anne, évidemment, de savoir ce qui s'est passé ce matin entre les membres du jury hétéroclite, présidé, paraît-il, fort démocratiquement par George Miller. Si leur but était de récompenser l'invention, l'audace et l'esprit de résistance, il ne manquait pas de choix, avec en premier lieu le film qui a conservé pendant tout le festival son statut de favori pour la Palme d'Or, le réjouissant, émouvant et revigorant Tony Erdmann de Marraine AD et la prestation ébouriffante du génial Peter Simonischek dans le rôle-titre. Il y a aussi le lyrique et très inventif Aquarius de Kleber Mendonça Filho et sa Sonia Braga en état de grâce, le poétique et apaisant Patterson de Jim Jarmusch et enfin une Isabelle Huppert impressionnante de culot et de précision virtuose dans la jubilatoire surprise finale de la compétition, Elle de Paul Verhoeven, à qui personnellement on donnerait volontiers la palme. Mais le film est sans doute trop pervers et subversif pour faire consensus au sein d'un jury et il semblerait qu'en fait aucune des œuvres précitées ne figurera au palmarès. On devrait, selon toute apparence, y retrouver certains des films les moins intéressants de cette année, ceux de Ken Loach, Moi, Daniel Blake et Andrea Arnold, American Honey, du jeune homme pressé Xavier Dolan, Juste la fin du monde, et de l'Iranien Asghar Farhadi, Le client. Un Français en serait également, probablement Olivier Assayas et son audacieux mais inégal Personal Shopper serait tout de même primé de très bons films, ceux du Roumain Christian Mungiu, baccalauréat, et du Philippin Briante Mendoza, Ma Rosa. Si tout cela se confirme, c'est un bien curieux palmarès qui se dessine en dessous, en tout cas, de ce qu'aura été la très bonne compétition cannoise crue 2016.
Merci Antoine Guillot pour vos pronostics. On pourra les vérifier. Les résultats sont attendus d'ici 2h à 20h. Le temps de votre lundi du gris sur l'ensemble du pays. Seul le pourtour méditerranéen aura droit à quelques rayons de soleil au lever du jour. Il fera 7 à Clermont-Ferrand, 9 à Brest, 10 à Lille et Paris, 11 à Strasbourg et Marseille et 14 à Ajaccio.
Journal préparé avec Meta Chiteya, à la technique Jean Frédérix.